On pourrait faire une capsule temporelle. C'est quelque chose qui permet de capturer les fragments d'une époque pour les transmettre aux générations futures. Jetée dans la mer du temps.
Ensemble, nous démarrons l'émission Capsule temporelle.
On continue donc la visite du centre social La Paz, donc à Saint-Jean-en-Royan. Donc, en ta compagnie, je vais te laisser te présenter toi et le centre social.
Bonjour, Séverine Giroux, du coup je suis directrice du Centre social La Paz depuis le mois de juin 2024. Un centre social associatif, donc c'est ce que j'expliquais. Nous dépendons bien évidemment des subventions publiques. Les locaux ici sont mis à disposition par la communauté de communes. Nous avons des subventions municipales, intercommunales et de la CAF principalement. Nous avons un agrément centre social et souvent il y a un mélange entre un centre social et l'action sociale. Ça n'est pas la même chose. Nous, on n'est pas centre communal d'action sociale. On n'aide pas les personnes individuellement financièrement. Mais par contre, l'agrément centre social fait que nous faisons des actions et des projets
à
caractère social, en fait, pour que tout le monde puisse participer. L'idée, c'est vraiment l'ouverture à tous les habitants, vraiment tous les habitants, et c'est pour ça que nous avons des tarifs indexés au quotient familial. Okay. Donc, que ce soit aux crèches, enfin dans les crèches, à l'accueil de loisirs, on a beaucoup de projets et d'actions qui sont gratuites, et pour cela, nous faisons des appels à projets. Donc voilà, on a de l'argent public, bien évidemment. Sans cela, on ne tiendrait pas. La genèse du centre social repose sur une posture professionnelle, c'est-à-dire que nous, on travaille à partir des habitants. Ce sont les habitants qui font les projets, nous, on les accompagne. Et après, bien évidemment, il y a tous les services, puisqu'il y a des besoins sur les territoires qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un centre social ici, à Saint-Jean-en-Royan, enfin dans le Royan-Vercors, et un centre social dans une ville, par exemple à Romans, ne répondra pas aux mêmes besoins, forcément. Donc ici, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a 3 structures d'animation de la vie locale sur le Royan-Vercors. Il y a 2 espaces de vie sociale, Vertapop qui a La Chapelle en Vercors, et Active Royan qui est ici à Saint-Jean. Et donc on est très complémentaires en termes de public ou de territoire. Active Royan a une action qui est adressée plutôt aux adolescents. Okay. Voilà, donc nous, on ne s'occupe pas des adolescents, enfin, on ne s'occupe pas. Bien évidemment que si, mais voilà, c'est ça, on travaille ensemble. Et Vertapop à La Chapelle, bah, bien évidemment que la situation géographique fait qu'ils sont, qu'on est éloignés les uns des autres, mais on travaille en partenariat, en coopération. Et d'ailleurs, notre projet social, qui est écrit pour 4 ans, a été travaillé avec les habitants, les bénévoles du territoire, avec Active Royan. Donc, nous avons un projet commun pour la période 2025-2028 qui permet de faire un diagnostic de territoire, c'est-à-dire qu'on prend les données, les chiffres, en disant, bon, ben voilà, il y a plus d'enfants, moins d'enfants, donc les besoins évoluent en fonction des périodes. Et puis, on va à la rencontre des habitants pour connaître leurs besoins, leurs envies aussi. Et du coup, ils définissent, puisque le projet social est vraiment travaillé avec les habitants, ils définissent, on définit ensemble les priorités pour les 4 années à venir. Et donc, notre projet social 2025-2028 repose sur 4 axes de développement. Donc, il y a l'ouverture au monde. Donc là, on est sur de l'ouverture au monde, que ce soit formation, sortir du territoire, mais aussi ouverture au monde culturel. On a un axe qui est solidarité et entraide, puisque bien évidemment, dans la société dans laquelle nous vivons, la solidarité et l'entraide doivent être vraiment au cœur de nos territoires. Pour les transports partagés, par exemple, ce sont vraiment des transports solidaires. Sur l'alimentation aussi, on va aussi travailler sur du glanage, un projet glanage qui arrive. On a un axe transition et alimentation. Et donc là, on travaille avec Le Courbouillon, qui est une association du territoire de Saint-Marcellin, et une association de Valence qui nous accompagne pour essaimer des actions glanage. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mieux manger, manger local, lutter contre le gaspillage, être solidaire avec les producteurs. Enfin voilà, on a vraiment un gros pack. Et c'est dans la mouvance de réflexion sur la démocratie alimentaire, la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc là, nous, on travaille avec le collectif, bien évidemment. Mais on va rentrer sur le glanage, c'est-à-dire prendre contact avec les agriculteurs, voir et ramasser les surplus de production ou ce qui reste dans les champs. Donc aller glaner sur place et redistribuer les produits glanés à l'épicerie sociale, par exemple, à la Croix-Rouge, etc. Et le quatrième axe, bien sûr, c'est petite enfance, jeunesse, qui est un peu quand même le cœur de notre action. Donc on a deux crèches, on a un lieu d'accueil enfants-parents, on a un relais petite enfance, on a une commission enfance, on a un accueil de loisirs maternels. Alors comme j'ai pas tout, peut-être j'oublie des services. Et nos adhérents partent du jeune âge à la crèche jusqu'au grand âge, puisqu'on a bien sûr un service animation de proximité. Donc dans le cadre dans lequel par exemple rentre les Printemps Mortels, qui est un festival autour de la mort qui démarre en avril. Je fais un petit peu de com. Et on a un service aux personnes, donc avec mise à disposition d'aide à domicile, enfin mise en lien en fait entre des personnes qui ont besoin et des aides à domicile. Voilà, on fait du portage. On fait le lien, non, on accompagne les deux. Voilà, dans la relation de travail, dans les plannings, dans les fiches de paye, dans les contrats. Okay. Voilà. Et on fait du portage de repas, puisque le territoire est très dense. Et du coup, tout le monde n'a pas la mobilité pour se déplacer. Et puis, c'est vrai que quand on perd un peu d'autonomie ou quand on vieillit, on n'a pas forcément envie de se faire à manger tout seul. Donc, on a un service de portage de repas. Des personnes nous appellent pour dire « j'ai plus envie de cuisiner, j'ai pas envie de faire les courses, peu importe. Je veux des repas pour 3 jours dans la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. » Et nous, on livre. Voilà, donc on a tout. Alors, nous, on a un prestataire de repas. On vient de changer, d'ailleurs. Donc, c'est au repas d'autrefois qui est à Bourg-Garbaré, notre prestataire, qui, lui, nous livre les repas. Et nous, on les dispatche, on les prépare, on les conditionne en repas. Et on va livrer. Et l'idée, ça n'est pas que du portage du repas, c'est bien aussi de prendre des nouvelles, de créer du lien, de s'assurer que tout va bien. C'est, de garder un lien. Petit à petit, on connaît les bénéficiaires et du coup, prendre soin d'eux. L'été, s'assurer que tout va bien, qu'il y a de l'eau, enfin voilà.
Et ça, c'est un service qui est payant. C'est pareil en fonction du quotient familial. C'est des prix, j'imagine, abordables du coup, c'est ça?
Oui. Donc, on a le tarif du repas et après, on ajoute bien évidemment des frais pour le déplacement. Et les frais sont en fonction du quotient familial. Okay. Et on a certaines communes qui aident également au repas, donc via le service, le centre d'action sociale. C'est pour ça que je disais, souvent on confond le centre social et le centre communal d'action sociale, ça n'est pas la même chose. Mmh.
Voilà. Donc là, ça veut dire que vous avez des aides financières pour mettre ce projet en place et le maintenir, j'imagine.
Non, là, les communes, elles aident au repas. C'est-à-dire que certaines communes qui donnent une participation au repas pris.
Okay.
Pour diminuer c'est une vraie plus-value pour les habitants en fait de la commune. Puisqu'en fait, c'est toujours la même chose pour le territoire. Le centre social apporte beaucoup de services. On parlait garde d'enfants, services à la personne, transport partagé. Et en vrai, sur les communes rurales, pour rester habiter dans une commune éloignée, il faut quand même avoir des services à proximité. Il y a une famille qui arrive avec des enfants, il y a besoin de faire garder les enfants. Donc le centre social est peut-être à Saint-Jean, mais il n'est pas très éloigné de toutes les communes et donc permet aux parents d'aller travailler en dehors du territoire et de faire garder leurs enfants, ou même sur le territoire d'ailleurs. D'accord. Voilà.
Okay. Très bien.
Voilà, que puis-je dire d'autre ? Une petite carte d'identité du centre social, vite fait pour donner quelques chiffres. Voilà, donc le centre social, c'est 16 administrateurs qui gèrent la structure, donc bénévoles, 46 salariés pour 33 équivalents temps plein, un budget de 2,4 millions, 609 adhérents sur tout le territoire, puisque nous couvrons les 18 communes du Royan-Vercors. Voilà la petite carte d'identité en quelques chiffres qui permet vraiment de balayer le centre social.
Très bien.
Oui, l'idée, c'est bien évidemment de proposer des services à la population en fonction des demandes. Donc, on a parlé des crèches, de l'accueil de loisirs, du service à la personne. Mais c'est aussi de participer à la vie locale, c'est-à-dire rompre l'isolement, prendre soin de tous les habitants. Donc, le portage du repas fait partie de... On rompt l'isolement puisqu'on va vers l'autre. Et nous, dans notre action, on va vers les habitants sur leur lieu de vie. Alors évidemment, le centre social est situé à Saint-Jean, qui est la plus grande commune du territoire, mais nous allons quand même à la rencontre des habitants sur leur lieu de vie. Donc à Saint-Nazaire, à Sainte-Eulalie, à Saint-Laurent, enfin voilà, et dans le Vercors, Saint-Julien, on a une crèche qui est à Saint-Julien, mais on va aussi aller à Saint-Martin, on va à La Chapelle et on est en lien avec Vertapop. Voilà, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des habitants pour leur parler du centre social, mais aussi pour les accompagner dans leurs projets et leurs envies. Et c'est comme ça qu'on accompagne des collectifs d'habitants. Donc, on a parlé du collectif de l'alimentation, autour de l'alimentation, le collectif des transports partagés. Dans les transports partagés, ça s'est décliné ensuite avec un atelier de réparation vélo et la mise en location de vélos électriques.
Génial.
Voilà, pour favoriser la mobilité, le déplacement doux sur le territoire. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a un groupe d'habitants de Saint-Jean qui est venu nous voir en disant « Ah, il y a un problème. » On est confronté à un problème de partage de l'espace public, notamment dans les déplacements. Voitures, piétons, il y a des enfants, il y a des jeunes, etc. Donc, on accompagne ce collectif d'habitants à cibler le problème et voir comment est-ce qu'on peut le résoudre, comment ils peuvent le résoudre, puisque nous, on est toujours dans ce sont... on les accompagne. Voilà. Et puis après, on est ouvert à tout projet. Donc, il y a des habitants qui viennent me voir là pour faire un projet en partenariat. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il va voir le jour, mais sur comment est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble sur le territoire. Donc, l'idée, c'est de faire des actions un peu sur tout le territoire, sur vivre ensemble. Ça veut dire quoi ? C'est lutter contre les inégalités, contre les rapports de domination, comment on se rencontre. Mais tous nos projets sont un peu... sur ces champs-là, la rencontre du monde agricole et des consommateurs, on est là aussi.
Créer du lien.
Créer du lien. Créer du lien. Créer du lien, de la mixité, favoriser l'inclusion. Et d'ailleurs, un des piliers des centres sociaux, c'est l'accueil inconditionnel de toute personne sans différence. On a un projet, notamment sur la petite enfance, avec un éveil culturel, où il y a une programmation qui est faite sur le territoire, avec des événements à destination des parents, des familles. Donc c'est Être parent, ça se bricole, qui est en général au mois de novembre, qui est en intérieur. L'idée, c'est de proposer des ateliers de toutes sortes, et les parents viennent faire avec leurs enfants. Dans le même esprit, il y a Tous dehors, qui est au mois de juin et du coup en extérieur, bien évidemment. On a une fête de Noël avec un spectacle en général, donc fête de fin d'année. Là, cette année, on avait un concert rock pour les enfants, qui était très chouette. Dans le cadre de Printemps Mortel, on a deux spectacles qui sont ouverts à tous. Un spectacle à partir de 7 ans, avec des marionnettes, et un spectacle à partir de 12 ans, en lien avec la Navette, qui est un lieu culturel du territoire. Et puis, on essaye aussi de sortir... Donc, dans la commission Petite Enfance, Patrick Gerland, donc, qui est responsable du relais Petite Enfance, prend contact avec l'Arsolide, qui est juste à côté et qui offre la possibilité d'exposition culturelle. Donc, il y a eu le Graphe l'année dernière sur plein de sujets. L'avantage, c'est que c'est vraiment à deux pas. Et du coup, les tout-petits peuvent y aller aussi. Donc, il y a ce déplacement pour s'ouvrir à la culture dès le plus jeune âge, puisqu'on sait que c'est une habitude, hein. On travaille en lien avec les médiathèques, les ludothèques. On a des soirées pyjama. On a les soirées pyjama où on a un collectif d'habitants.
C'est rigolo, ça.
qui met en scène des contes, on va dire, ou des histoires. Et donc, chaque vendredi avant chaque vacances, enfin non, les vendredis précédant les vacances scolaires, il y a une soirée pyjama avec un conte théâtralisé.
D'accord.
À destination de toutes les familles, enfin des enfants, mais qui viennent accompagner en pyjama.
Et du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent au centre social, ouais.
Oui, ça commence. Après, ça dépend des événements, effectivement, mais sur les soirées pyjama dont je parlais, c'est je dirais entre 80 et 100 personnes qui viennent, puis ça commence à être connu. Donc maintenant, la récurrence fait que c'est une habitude.
Le projet, par exemple, des Printemps Mortels, c'est quelque chose qui a été monté en collaboration. C'est qui a initié ce projet, finalement?
Ce projet a été construit la première fois en 2023. Donc, la première édition était en 2023. Cette année, on l'a construit en partenariat avec Maison de quartier de Romans, puisqu'en fait, ils travaillent également avec Thanatosphère. Et l'idée, c'était de ne pas proposer les mêmes thématiques de conférences, d'ateliers. Romans, c'est une demi-heure. Donc, on dit que les personnes ont une offre plus grande et peuvent se déplacer à Romans s'il y a une thématique qui les intéresse. Avec l'association Thanatosphère, puisque ce sont des professionnels et que ce sont elles qui abordent ces sujets-là, qui sont quand même intimes. Donc, il y a les PEP et il y a Radio Royan qui est avec nous dans l'organisation de ce festival. Donc, il dure 2 mois, du 18 avril au 21 juin. Et donc, chaque semaine, il y a une action. Donc, soit un café mortel. Donc, café mortel, c'est dans un café, comme son nom l'indique. Il n'y a pas besoin d'inscription, il faut y aller. Et c'est une discussion-échange. Il y a des ateliers. Donc là, c'est du travail, c'est une mise en travail, par exemple, sur les directions anticipées, les directives anticipées, pardon. Et donc là, il y a une vingtaine de personnes. Et après, il y a des conférences qui réunissent plutôt une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et donc, nous, on a une conférence sur les directives anticipées. Et on a une autre conférence sur comment parler de la mort aux enfants et aux adolescents. On a choisi cette année d'être un peu plus intergénérationnel sur cette édition 2025, car la mort fait partie de la vie. Et en fait, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est touché par la mort. En fait, ça ne prévient pas. Et dès enfant, on peut être... La mort, c'est à tout âge. Et donc, ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder, comment en parler entre nous, comment en parler à ses proches, comment le préparer au mieux. Enfin, l'idée, c'est vraiment
d'ouvrir
cette discussion, de pouvoir d'arrêter que ce soit tabou, en fait. Voilà. Donc, le programme est disponible au centre social et va être distribué un peu partout dans le Royan-Vercors. Il est consultable aussi sur notre site. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Voilà, c'est comment parler de choses sérieuses avec légèreté.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais évoquer sur, je ne sais pas, ce que tu veux, en fait. Comme un mot de la fin, même, presque. Ouais. Un sujet qui te touche, même par rapport, ça peut être aussi perso, par rapport à ton travail, comment tu le perçois, enfin, voilà.
J'aurais envie d'ouvrir un petit peu, parce que le centre social, bien sûr, on a des locaux qui sont ici à Saint-Jean-en-Royan, qui fait partie de la communauté de communes du Royan-Vercors, mais en vrai, on reste accessible et ouvert vraiment à tous les habitants du territoire pour quelques problématiques que ce soit. Alors bien sûr, il y a des sujets dont on sera le relais, mais s'il y a des problématiques ou des envies d'habitants de faire quelque chose ensemble, on est là pour vous accompagner, pour vous donner la possibilité de le faire ou peut-être être le petit coup de pouce qui donnera l'élan.
C'est ouvert, en fait.
C'est ouvert.
Très juste te poser une question, peut-être même un peu perso. C'est ton métier, tu fais ça depuis longtemps, j'imagine.
Je fais ce métier depuis 10 ans.
10 ans, ok.
Et depuis 10 ans, est-ce que tu as un regard, enfin, tu as forcément un regard et un recul sur parce que tu as bougé, si j'ai bien compris. Et tu as senti des changements dans la façon de travailler, dans le... même les subventions, les aides, les comment, enfin voilà, tout ce côté hein, comme ça. Tu as senti des changements ?
Alors, moi, je sens des changements. Alors, déjà, des changements en fonction des territoires, puisque bien évidemment qu'on dépend. Alors, on est associatif et on reste indépendant. Mais malgré tout, il y a quand même des volontés politiques de nous soutenir ou pas. Et suivant les territoires, ben, on a plus ou moins de soutien. Et en tout cas, on est conscient aussi des difficultés des territoires, puisque eux aussi connaissent des baisses de dotation et qu'on a tous des budgets contraints. Et que si on avait des arbres pour faire pousser des dollars, ce serait formidable, mais ça n'est pas le cas. Donc l'idée, c'est bien de construire ensemble, mais aussi de discuter et... de discuter ensemble les priorités du territoire et de voir comment est-ce qu'on s'entend pour pouvoir justement faire pour les habitants toujours en fonction de ce qu'on nous donne, de ce qu'on a, de ce qu'on demande. En tout cas, il y a un dialogue qui est possible. Et ici, sur ce territoire, le dialogue est possible. Donc,
c'est déjà une bonne nouvelle.
Oui, tout à fait.
C'est parce qu'on discutait tout à l'heure des transports partagés. Et justement, je parlais de l'achat des véhicules, par exemple, qui, j'imagine, a été pris en charge... Alors, par qui, je ne sais pas, mais...
Les achats de véhicules, souvent, on fait appel à des fondations. Okay. Fondation de France, diverses fondations, okay. Et on va chercher... Ah, et on a aussi la CARSAT, G2R, enfin, il y a plein d'organismes qui ont des subventions d'investissement.
D'accord. Ça veut dire que tu présentes un projet, ça leur semble intéressant, et du coup, ils Exactement. Participent ou pas. Ok.
Exactement.
D'accord.
C'est une source de revenus qui n'est pas négligeable.
Ah oui, puis sinon, on ne pourrait pas. En vrai, si le centre social devait acheter des véhicules pour assurer les transports, puisqu'il y a quand même trois véhicules pour les transports partagés, et on en a un pour le portage de repas, en vrai, on ne pourrait pas subvenir à l'achat de ces véhicules si on n'était pas aidé. C'est clair.
Et alors toi, justement, qui as un peu bougé, parce que moi, je trouve que ce truc de transport partagé, il est vraiment intéressant. Et pourquoi, finalement, ça ne s'est pas étendu plus que ça, finalement ? Enfin, je ne sais pas, apparemment, ça ne s'est pas trop étendu.
Alors, on a quand même deux territoires qui sont venus nous rencontrer en 2024 pour justement savoir comment ce projet était né, comment il fonctionnait, puisqu'il y a d'autres territoires ruraux en France qui ont la même idée, mais qui ne savent pas trop comment faire. Donc oui, que ça SM pas plus que ça, parce que peut-être qu'ailleurs, je sais pas, la région est peut-être plus présente avec des transports, puisque c'est la région qui a la compétence des transports. Sur les territoires ruraux, c'est compliqué de mettre des navettes en route, ça coûte cher, en fait. Donc c'est vrai que si on n'avait pas les bénévoles qui donnent tout ce temps-là, puisque ça représente 100 000 euros par an, la contribution des bénévoles à notre projet social. Okay. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des salariés, mais que si on devait les salarier, ça nous coûterait 100 000 euros en plus. C'est ça que je veux dire. Si les bénévoles n'étaient pas là pour faire tous ces transports, cela ne pourrait pas exister, clairement. Mm-hmm. Nous n'aurions pas les moyens de mettre de la main-d'œuvre et du salariat sur les transports partagés. Mm-hmm.
Ouais,
D'où l'importance des financements des collectivités ou des fondations ou des financements privés pour l'achat de matériel et l'investissement bénévole qui permet aussi d'être... le non-marchand permet aussi le lien. Le lien, on parle d'habitant à habitant, on se connaît,
c'est génial.
On découvre le territoire, enfin... Non, c'est une vraie plus-value et bien au-delà des 100 000 euros dont j'ai parlé tout à l'heure.
Hein. Bien sûr. Oui.
Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Merci à toi.
Bonjour, je m'appelle Alix et je m'occupe de coordonner les transports partagés au centre social La Paz. Donc, les transports partagés, ils existent depuis 10 ans déjà au centre social La Paz. Ils ont été créés par un collectif qui s'appelle le collectif Partage, qui est un collectif de professionnels et bénévoles qui œuvrent pour le bien vieillir sur le territoire. Et ce collectif, il y a 10 ans, a fait un grand diagnostic de territoire pour un peu se renseigner sur les besoins plutôt des seniors à l'époque. Et le résultat de ce grand diagnostic de territoire était donc que la mobilité était vraiment ce qui les concernait le plus, là où il y avait un vrai besoin. Et donc, c'est comme ça que sont nés les transports partagés, donc projet que porte le centre social La Paz depuis 10 ans. Donc le principe, c'est que ce sont les habitants qui rendent service aux habitants qui ont besoin de se déplacer, mais qui n'ont pas de moyens de transport. Donc on a un groupe de bénévoles, ils sont une vingtaine, qui vont conduire comme ça les personnes qui ont besoin d'être transportées. Au centre social, on a trois véhicules. Ça a commencé par un, évidemment, puis un deuxième, puis un troisième. On a deux véhicules qui sont à Saint-Jean et un véhicule qui est à la Chapelle en Vercors, sur le plateau. Et donc, il y a deux fourgons qui sont électriques. Il y a un fourgon qui est électrique, un fourgon thermique et une voiture électrique. Donc on a trois véhicules qui sont garés, il y en a deux qui sont garés à Saint-Jean au centre social, un qui est garé à la Chapelle, et les bénévoles vont venir utiliser nos véhicules pour transporter des usagers qui sont donc adhérents du centre social.
Donc il faut adhérer, et ça coûte combien une adhésion par exemple ?
Une adhésion, ça coûte 5 euros, c'est une adhésion qui est pour l'année et qui est familiale. Le principe, c'est qu'on organise des boucles. Donc, en fait, les transports partagés, ça fonctionne du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Et on se déplace sur le territoire de la communauté de communes Royan-Vercors. Donc, on va sur tout le plateau et dans le Royan. La seule exception qu'on fait, c'est qu'on sort de ce territoire pour aller à la gare de Saint-Hilaire-Saint-Nazaire, qui est une gare TER, et ça permet aux usagers de sortir du territoire.
Parce que sinon, ça correspond à quelle commune à peu près ? Parce que...
La communauté de communes Royan-Vercors, c'est le territoire qu'on recouvre. C'est donc Saint-Jean-Royan, les villes du Royan, donc Saint-Jean-Royan, Saint-Thomas, Saint-Nazaire, Saint-Laurent, Léoncelle, voilà. Et puis ensuite, il y a le Vercors, donc La Chapelle, Vassieux, Saint-Julien, Saint-Martin. C'est un territoire qui est assez étendu, avec 10 000 habitants environ. Et donc, on se déplace sur tout ce territoire. Il y a deux types de transport. Le premier, donc, c'est le transport à la demande. Donc, les personnes nous contactent au plus tard 48 heures avant le jour de leur transport. Ils nous contactent et ils nous expliquent où ils veulent aller. Et là, moi, je m'occupe donc de coordonner les transports. Donc, je vais chercher des bénévoles disponibles pour faire ce transport en particulier. J'organise le planning. Et donc
ça peut vraiment être un déplacement privé pour une personne, en fait.
Voilà, le transport à la demande, ça peut être pour une personne. On essaye au maximum de mutualiser les demandes. Si deux personnes nous demandent d'aller faire des courses le même jour, on va essayer au maximum de faire que ce soit en même temps pour que ce soit des transports partagés. Mais effectivement, ça peut être pour une personne seulement. Et donc, en général, les transports à la demande, ils sont demandés pour faire des courses, pour aller chez le médecin, pour aller rendre visite à une famille, pour les loisirs. C'est assez varié quand même, les motifs des demandes. Ils sont assez variés. Et le deuxième type de transport qu'on fait, ce sont des boucles hebdomadaires qui ont lieu donc chaque semaine. Et ces boucles, elles permettent aux habitants, donc le mardi matin, on va chercher des habitants de Saint-Nazaire et de Saint-Thomas pour leur permettre de passer une heure à Saint-Jean. Le jeudi matin, on va chercher des habitants de Sainte-Eulalie et Saint-Laurent pour leur permettre de passer une heure à Saint-Jean. Et le même jour, on fait une boucle sur le plateau pour permettre aux habitants du Vercors d'aller au marché de la Chapelle qui a lieu le jeudi matin. Donc ça, ce sont des boucles sans réservation. C'est la différence avec les transports.
Comme presque un bus, en fait, c'est ça ?
Voilà, c'est un bus avec des horaires fixes. Il n'y a pas besoin de réserver. Et c'est souvent les mêmes usagers qui, chaque semaine, prennent cette navette. Donc là, c'est vraiment un transport partagé.
D'accord. Et là, en fait, j'imagine que ça a été une réflexion en fonction de quoi. Il y a eu une sorte de petite enquête où on s'est dit, tiens, les gens, ils ont besoin d'aller plus à cet endroit, etc.
Voilà, exactement. En fait, au départ, il y a une boucle qui a été tentée, qui a été essayée. On a vu qu'il y avait plus ou moins de monde, on a cherché à faire évoluer la boucle. Une fois que ça a bien marché, il y a une deuxième boucle qui a été créée, puis une troisième. C'est vraiment en essayant et en discutant avec les habitants pour comprendre voilà, quel jour et où ils avaient besoin d'aller. C'est comme ça que ça a été créé.
D'accord. Et donc, il y a une forte adhésion au... Oui.
Et ben oui, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. On a environ 150 usagers qui prennent très souvent les transports. Donc tous les jours, ça représente environ 4-5 transports par jour. Donc c'est quand même quelque chose qui marche vraiment bien et puis qui rend service parce que sur le territoire, quand on n'a pas de moyens de transport, c'est quand même un vrai problème pour s'organiser, pour organiser sa vie, ses courses, ses rendez-vous. Et donc, ça rend service à ces personnes. Donc, je disais tout à l'heure qu'au départ, c'était une enquête auprès des seniors qui avait été faite. Mais nous, on n'a pas de conditions d'âge. Ce transport, il sert à tout le monde, quel que soit l'âge. La seule condition, c'est d'être majeur. Et d'être autonome. Si on n'est pas autonome, on demande que les personnes soient accompagnées parce que ce sont uniquement des bénévoles qui conduisent. Donc, ce n'est pas eux voilà, qui vont s'en occuper. Et puis, au niveau des bénévoles, ça représente donc une vingtaine de bénévoles. Donc, c'est grâce à eux vraiment que ce service existe. Ça ne pourrait pas exister sans. Et donc, grâce à eux, voilà, ils rendent service aux habitants, ils leur permettent de se déplacer. Donc, c'est vraiment les bénévoles qui font ce service de transport partagé.
Et ça a un coût pour les usagers, du coup ? Mis à part l'adhésion, est-ce que oui ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a besoin d'être adhérent au centre social La Paz, une adhésion qui est annuelle, familiale et qui coûte 5 euros. Et ensuite, chaque transport est payant. Donc, les transports à la demande coûtent 4 euros aller-retour dans la journée. Et les boucles qui sont sans réservation coûtent 2 euros aller-retour.
Alors, ça veut dire que, par exemple, si la personne a un rendez-vous au médecin, la personne peut attendre que le rendez-vous se fasse et on la ramène. Comment ça... Oui, ça peut se...
Oui, exactement. Voilà. Si quelqu'un a un rendez-vous, soit il me prévient par téléphone, il me dit, voilà, mon rendez-vous va durer tant de temps et alors on prévoit une personne pour l'aller, une personne pour le retour. Après, la personne ne sait pas forcément combien de temps il aura besoin. Et dans ces cas-là, le bénévole s'adapte, lui donne son numéro de téléphone. Comme ça, la personne, dès qu'elle a fini, peut joindre le bénévole et peut être ramenée chez elle. C'est très individualisé, en fait. Ça dépend des cas.
D'accord. Alors, quel est le profil type du bénévole ? Bah oui, c'est parce que quand même, c'est un investissement quand même assez important. Parce que j'imagine qu'ils doivent rester un peu vigilants pour être joignables. Donc, peut-être c'est des retraités ou c'est ça ?
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup des retraités voilà, actifs qui continuent comme ça à travailler. Mais c'est la plupart, ouais, la grande majorité de nos bénévoles, c'est des retraités. Et qui soit apprécient la conduite, apprécient beaucoup le lien social, aiment créer du lien avec les habitants. Comme c'est finalement souvent les mêmes usagers qu'on va retrouver, parfois, depuis 10 ans, voilà, un usager va être transporté par un bénévole. Ben, en fait, depuis 10 ans, ils ont eu le temps de créer du lien. Donc, c'est vraiment une manière de créer du lien avec les habitants du territoire. En fait, la plupart des bénévoles conduisent, mais on a aussi des bénévoles qui ne conduisent pas parce que les boucles qu'on organise le mardi et le jeudi sont des boucles pour lesquelles il y a toujours un binôme de bénévoles. Okay. Donc il y a un bénévole qui conduit et l'autre bénévole va tenir la caisse, aider à porter les courses, ouvrir la portière. D'accord. Il fonctionne à deux comme il transporte environ 6-7 personnes dans le fourgon.
Ah, c'est... il y a des fourgons.
Les boucles du mardi et du jeudi, ce sont des fourgons qui les font. Et donc, là, il y a deux bénévoles, un qui conduit et l'autre qui accompagne. Donc, ce n'est pas forcément que des conducteurs.
D'accord. Ah ouais, c'est bien. Et alors, du coup, parce que ça a été l'initiative d'une association, donc vous avez repris ça, en fait, et vous avez organisé, du coup, aussi l'achat des véhicules, etc. Enfin, j'imagine que ça s'est passé comme ça. Et du coup, est-ce que ce système, il a déjà existé ailleurs? Vous avez vent de ça ou pas?
Alors, on sait qu'il y a quelques autres exemples en France, mais ce n'est pas encore très développé. On a régulièrement des assos d'autres territoires qui viennent nous rendre visite, justement pour comprendre comment nos transports partagés fonctionnent et pour pouvoir peut-être s'en inspirer sur leur territoire. Je pense à la Lozère, à l'Île-de-France. On a eu des visites là ces deux derniers mois pour justement s'inspirer de ce modèle-là. Après, je sais que voilà, ça existe, la mobilité solidaire quand même sur le territoire, mais pas toujours sous cette forme-là. Par exemple, il y a des assos qui organisent ça de manière à ce que les bénévoles utilisent leur propre véhicule pour transporter, pour faire du covoiturage. Mais ce système d'une association qui a des véhicules et qui sont utilisés par les bénévoles, il est pas, on ne peut pas le trouver beaucoup sur le territoire quand même. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est que dans les boucles, donc il y a les boucles du mardi et jeudi qui permettent aux habitants d'aller passer une heure dans les gros bourgs, que sont Saint-Jean et La Chapelle. Mais on organise aussi des boucles de ramassage pour aider d'autres associations. Donc, par exemple, tous les jeudis après-midi, on fait une boucle de ramassage dans le Royan et le Vercors pour emmener des usagers à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Le mardi après-midi, on va ramener des personnes qui vont au Resto du Cœur, on va les ramener chez elles. Le jeudi après-midi, on fait une boucle de ramassage pour emmener des personnes à la plateforme de répit. C'est une plateforme de répit pour les aidants et pour leur permettre d'avoir du répit. Et donc, ce sont des personnes Alzheimer qui sont accueillies sur cette plateforme. Et nous, on fait une boucle de ramassage pour aller les chercher, les emmener à la plateforme. Donc,
qui est où, la plateforme ?
À Saint-Jean-Royan.
Ah, ok.
Et donc, voilà, il y a aussi ces boucles-là qui permettent d'aider les actions d'autres associations, en fait.
Parce que la plateforme de répit, c'est PEPS, c'est ça ?
Oui, exactement, c'est PEPS, c'est Romain.
Ok, donc ça veut dire que c'est un accueil de jour, en fait, c'est ça ?
Un accueil de jour, oui.
Vous faites le transport.
Voilà, c'est un accueil qui a lieu l'après-midi, le jeudi de 14h à 17h. Nous, de 13 à 14, on fait une boucle de ramassage. On amène les gens sur la plateforme et à 17h, on les ramène chez eux.
Ok.
Alors, les autres actions qu'on met en place, c'est des actions de mobilité pour l'accès à la culture. Donc, quand il y a des événements culturels, des pièces de théâtre, des sorties, on organise des transports. Donc là, c'est très ponctuel et on communique pour un événement en particulier. Vous pouvez faire appel au transport partagé pour permettre aux gens de sortir.
Parce que là, du coup, ça peut être même le soir ou des choses comme ça.
C'est les seules choses qui ont lieu en dehors du cadre horaire 8h, 18h, lundi, vendredi. Ça, on peut en sortir pour ponctuellement pour des événements culturels.
Eh ben, merci Alix de tous ces renseignements.
Merci.
Allez, alors on continue donc toujours au centre social La Paz. Alors ce coup-ci, je suis avec Patricia qui va nous parler de Vox Populi. Alors tu nous expliques tout, je te laisse faire.
Donc, bonjour, moi je suis Patricia et au Centre Social La Paz, je m'occupe du projet Vox Populi, qui est un projet vidéo qui existe depuis 12 ans au Centre Social La Paz et qui consiste à aller récolter la parole des habitants, plutôt après qu'on exploite sous forme de film. Donc, c'est plus aller filmer les habitants et leur expression. Depuis 12 ans, on a déjà réalisé 70 films sur différentes thématiques. La dernière en date, c'était un film plutôt autour de la vidéoprotection, pour ou contre la vidéoprotection dans notre territoire du Royaume Vercors, ce qui a amené à l'organisation d'un débat après la projection du film. Vox Populi, on est là effectivement pour interroger les habitants sur des sujets plutôt d'actualité et prendre un petit peu la température en fait du territoire par rapport à ces différents sujets. On avait fait aussi un film sur l'eau un bien commun, voir justement les habitants s'ils avaient une prise de conscience sur la richesse de l'eau et surtout de l'eau potable. Il y a quelques années, on avait fait un film aussi sur le fait de voter. C'était plutôt dans l'idée en fait d'inciter les personnes à se mobiliser pour le vote. Donc on avait été aussi sonder les habitants sur ça veut dire quoi voter aujourd'hui, et c'était assez intéressant aussi d'avoir la parole de différentes générations par rapport à ce devoir de voter.
Alors, juste concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire, vous faites des réunions ou vous allez chez les gens ou comment vous arrivez à...
Alors, ça va dépendre du sujet. La plupart du temps, en fait, on va essayer de repérer des experts sur le sujet. Et ces personnes-là, on va prendre rendez-vous et on va faire un vrai interview, soit chez eux, soit là dans les locaux du centre social ou dans un coin qui nous plaît, voilà, s'il fait beau. Et après, il va avoir toutes les autres paroles qui, là, sont un peu prises à la volée, soit dans la rue, soit sur les terrasses de bistrot, soit dans le cadre des marchés qu'on a hebdomadaires sur le territoire. Et voilà, donc là, on est plus sur, oui, on, voilà, vraiment des vidéos-trottoirs.
Ah oui,
voilà.
C'est ça.
D'accord. Après, Vox Populi, depuis 12 ans, on a toujours la même ligne de conduite qui est de... On n'est pas... Donc moi, je suis avec mon collègue Ingo qui réalise les films. Donc lui, il est plus sur la partie technique, prise d'image et de son. Il fait le montage. On échange sur le montage. Mais on n'est pas seul à valider le film. À chaque fois, on organise un comité de visionnage qui va réunir donc des personnes du centre social, autant salariés que bénévoles, et parfois des experts aussi du sujet dans le comité de visionnage. On va organiser 2 à 3 visionnages pour que on soit bien d'accord en fait sur l'objet du film réalisé, qu'on soit bien d'accord qu'il n'y a pas trop de paroles choquantes ou que les personnes ne sont pas trop mises en accusation, voilà. Et après, le premier visionnage public, il est réservé à seulement les participants. En fait, il n'y a que les personnes filmées qui se voient une première fois. Et là, à ce moment-là, le film est validé. Après, voilà, jusqu'au bout. Après, ça nous est arrivé 2 fois de pas valider le film, de devoir le retoucher parce que la personne, à la dernière minute, disait non, moi, j'assume pas et je veux pas rester dans votre film.
Ce qui peut s'entendre.
Voilà. Mais le process, il est comme ça. Et après, on va faire des visionnages grand public. On a une chaîne YouTube où vous pouvez taper Vox Populi La Paz dans le moteur de recherche de YouTube. Et là, vous aurez vraiment toutes nos réalisations. On a fait un très beau film autour de la vieillesse, il y a 2 ans, qui permet en fait l'expression aussi des habitants jeunes et pas jeunes sur ce thème-là. Aujourd'hui, on est en train de réaliser un film sur le choix de mourir, en lien avec la loi qui est en train d'être discutée et de savoir en fait le ressenti des habitants autour de ce sujet.
Mais en fait, si j'ai bien compris, c'est vraiment juste recueillir en fait les expressions de différentes personnes. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de choses comme ça. Mais par contre, il y a quand même des experts, c'est ça? Et ça sert à quoi finalement de mettre des experts Alors que finalement, vous allez prendre des gens dans la rue pour avoir une sorte de reflet social, on va dire. Et après, l'expert, il sert à quoi, finalement ?
Par exemple, sur le film qu'on a pu réaliser sur l'eau, Un bien commun, on a pu interviewer la personne en charge du réseau d'eau potable sur la commune. Et même, on a pu aller filmer dans les réservoirs d'eau. Et c'est aussi pour amener un petit peu l'explication. Quand on a une parole d'habitant qui nous dit « oui, mais l'eau potable, elle est ultra traitée », ou en miroir, on va avoir la parole de l'expert qui va bien dire la réalité. Les experts, oui, sont là, en fait, pour ramener un petit peu d'explication technique voilà, sur le sujet. Ouais.
J'imagine que vous avez des sujets qui ne sont pas très techniques, en fait.
Par exemple, on avait le sujet de la vidéoprotection, c'était un choix. On avait beaucoup d'habitants qui étaient contre la vidéoprotection et qui n'arrivaient pas à se mettre à la place des élus qui avaient pu installer déjà des caméras sur leur commune. Et le fait d'avoir des témoignages d'élus qui étaient passés par là, on entend les arguments et c'est vrai qu'on chemine. Voilà, ouais.
Et alors du coup, c'est diffusé sur YouTube, mais est-ce que vous avez une sorte de, on va dire, publicité interne pour Saint-Jean ? Parce que c'est les gens qui sont concernés finalement.
Non, alors on a notre site aussi internet et après on organise en fait des visionnages régulièrement sur la commune ou sur la communauté de communes. Okay. Voilà. D'accord. Donc, on se déplace. Après, c'est des petites jauges. Hein. Forcément, on n'a pas 100 personnes à chaque projection. Oui. Mais voilà, on organise des soirées cinéma avec souvent nos films en première partie et en deuxième partie, un film grand public sur la même thématique.
Ah, okay. Je m'attendais à ce que tu me dises un débat. Alors, j'étais là, génial, mais non.
Ouais. Non, après, on a le cas, on peut le faire aussi en forme débat. Ça dépend des films. Et après, on peut aussi le faire en mode un peu cinéma. Nous, par exemple, on a pu faire un film autour du handicap. Par exemple, parce qu'on a pas mal de structures médico-sociales autour du handicap sur le territoire. Donc, on avait sondé en fait des personnes qui bossaient en IME, des enfants d'une école sur la différence, sur tout ça. Et on a pu faire une soirée avec notre production et suivi derrière d'un autre film grand public sur ce sujet-là aussi. Voilà.
D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble intéressant à nous transmettre à ce sujet ? Parce que je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante, en fait. Hein.
Après, c'est un projet, en fait, qui est de plus en plus repéré pour nous, là, sur le territoire. Et on voit que, ça y est, ça porte ses fruits. Maintenant, on commence à avoir des commandes. Par exemple, là, on va réaliser un film, par exemple, pour la Citrade, sur le tri. On risque de réaliser aussi un autre film sur les énergies renouvelables, et c'est la communauté de communes qui porterait ce projet-là. Donc, en fait, on s'adresse à nous, en fait, quand même, pour réaliser des films. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Non, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, du coup, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent utiliser dans le bon sens du terme pour avoir le reflet, en fait, de ce que la population pense. Et j'imagine que c'était un peu ça, quand même, l'idée de départ, non ?
C'était tout à fait ça. C'était recueillir la parole des habitants et là, on s'aperçoit qu'effectivement, l'outil est maintenant est repéré. Après, il faut savoir que nos films sont toujours beaux. Parce qu'on a de la chance que Ingo est un ancien photographe, donc du coup c'est toujours des films avec des très belles images, en fait. Okay. Et même toutes les personnes qui sont dans nos films sont très belles.
Oui, voilà. <c'est génial>. Donc merci beaucoup Patricia, et puis j'invite donc les auditeurs à aller voir sur YouTube Vox Populi La Paz. Voilà, c'est parfait. Ça. Merci.
On pourrait faire une capsule temporelle.
On referme la capsule temporelle et on se donne rendez-vous le mois prochain.